Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de pot.
Avec notre fratello, Coco D'Amico. Comment est-ce?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien,
forme.
Mon ami. Écoute, avant qu'on on discute avec notre ami Karel qui va débattre avec toi, rapidement, là, parce que je sais que ça fait jaser la situation contractuelle de Martin Nečas qui vient juste de signer pour 8 ans avec l'Avalanche à 11,5 millions de dollars. Et là, on se dit, ouais. Hey, tout ça pour, tu sais, puis là, t'as refusé, puis Rantanen a signé à 12 millions. Peux-tu nous expliquer, un, ce que tu penses de ce contrat-là qui a été accordé à Martin Nečas, mais également la situation de négociation de Rantanen avec l'Avalanche l'an dernier?
Ouais, écoute, je pense que l'Avalanche a juste mal évalué où ce que le marché s'en allait au moment où ce que... Rantanen était transigé à la Caroline. On savait déjà à quoi allait ressembler le cap salarial pour les deux ou trois prochaines années. Donc, pour moi, est-ce une erreur calculée? On pourrait le voir comme oui, vu que Rantanen a été repêché et développé par l'organisation. Ceci étant dit, Nečas et Rantanen sont à peu près au même niveau en termes de performance cette année. Donc, reste à voir si sur le long terme, ça va continuer. Et être le Colorado, t'es aussi allé chercher un Drury dans l'échange avec la Caroline, en plus de quelques choix pour t'aider à t'améliorer autre part. Donc, c'est pas la fin du monde, c'est juste, on se demande tout pourquoi est-ce qu'on est passé par quatre chemins pour arriver à la même place. Et je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé avec le Colorado. Pas que Martin Nečas, moi je trouve, c'est le gros gagnant dans toute cette situation-là, plus que Mikko Rantanen, parce que, souviens-t-on bien, il a refusé de signer à long terme en Caroline, a signé juste 2 ans un contre-pont pour essayer de prouver sa valeur parce que lui, il se voyait supérieur à la valeur que la Caroline lui donnait. Et là, on le voit aujourd'hui, 11,5 millions pour les 8 prochaines années. Donc, bravo à Martin Nečas que lui a travaillé très fort pour en arriver.
Mais Rantanen ne voulait pas 12 millions par année, là. Lui, il demandait comme 14, puis on l'échangeait en Caroline. Puis, il demandait encore le prix, puis ils ont dit non, puis ils l'ont échangé, puis rendu à Dallas, il s'est dit « OK, c'est beau, m'en prendre 12, finalement. »
Oui et non. Il y a une couple de choses qu'il faut prendre en considération. Un salaire ne compte pas la même dans l'état de Denver que ça l'est dans l'état du Texas.
Exactement.
De base. Donc, c'est là où ce que ça se jouait. Maintenant, ça demandait 14. Est-ce que ça voulait dire que ça n'allait pas descendre éventuellement? Non. C'est ça le jeu de la négociation, mais... malheureusement, Colorado ne voulait pas arriver à la fin et ne pas pouvoir recevoir de la bonne valeur pour Rantanen. Donc, ils ont décidé de le transiger de façon hâtive pour aller chercher quelque chose qui pourrait non seulement les aider dans le présent, qui est Martin Nečas, mais aussi d'autres petits éléments qui pourraient les aider à long terme aussi. On parle notamment de Jack Drury et des choix de haut repêchage. Donc, je peux bien comprendre la situation de pourquoi ils ont fait ça, mais pour moi, je pense qu'ils ont été juste un peu trop vite sur la gâchette. Je pense que s'ils auraient attendu une couple de semaines de plus, ils auraient peut-être trouvé un juste milieu et Rantanen, dans un univers alternatif, serait encore avec le Colorado.
Puis tu parles, puis je trouve ça intéressant, Marco, parce que tu as parlé de Martin Nečas. Puis rappelez-vous, là, avant la dernière saison, Martin Nečas en Caroline n'était pas nécessairement satisfait de son temps d'utilisation par Rod Brind'Amour. Il voulait jouer sur la première vague d'avantages numériques notamment. On lui donnait pas avec le Hurricanes de la Caroline. L'an dernier, on lui donnait davantage de temps de glace. Avant d'être échangé à l'Avalanche, 55 points en 49 matchs. Et par la suite, on connaît son parcours avec l'Avalanche du Colorado. Un bien meilleur parcours pour Martin Nečas. Et Mikko Rantanen, de son côté, a quand même eu cette participation aux séries éliminatoires avec les Stars de Dallas qui ont éliminé l'Avalanche l'an dernier. Alors, au final, je pense que l'Avalanche aurait aimé mieux avoir un gars comme Mikko Rantanen, mais à ce moment-là, on ne savait pas les négociations aller jusqu'à où.
Écoute, ils sont très chanceux qu'ils ont pu être capables de sortir un joueur comme Martin Nečas, parce que d'habitude, quand un joueur étoile de cette trempe se fait échanger, tu n'as jamais un joueur similaire en retour. Donc, au moins, ils ont su prendre avantage d'une situation qui se tournait un peu amère du côté de la Caroline.
Ouais.
Et écoute, la Caroline, ils ont pu quand même aller chercher Stankoven puis plusieurs premiers choix en retour de Martin Nicias en fin de compte. Donc,
Trois clubs ont fini par gagner, Marco, là-dedans.
Okay. Oui et non. Je pense que la Caroline aurait aimé à garder Rantanen ou elle, au moins remplacer Nicias avec un joueur de premier plan. Parce que là, on va le voir vraiment sur le marché des échanges. La Caroline va faire un autre gros coup, puis ça va utiliser en partie les ressources qu'ils ont eues dans la transaction Rantanen à surveiller avec toutes les avec le marché des centres en ce moment. Une équipe que je crois fermement va être dans le derby de Nazem Kadri.
Karen est mort, comment vas-tu?
Je vais super bien. Puis là, j'entends plein de belles choses, Marco. Nazem, honnêtement, puis je vais pas rentrer dans le topic au milieu, mais.
Avec Karel.
Non, j'aime ça au bout. Puis c'était désolé quand j'ai eu de la difficulté avec le Zoom cet après-midi, mais j'adore ce que tu dis. Puis je trouve ça intéressant parce que de ne pas dire que la Caroline a été gagnante enfin, tu vois, c'est un contexte que je pense qu'ils se sont débarrassés de quelqu'un qui voulait pas être là non plus, qui aurait pu, tu sais, amener un peu plus de négativité dans tout ça. Fait que non, c'est hyper intéressant. Puis même le Kadri comments. C'est un commentaire qui est
touchy de parler à Kadri avec Karel.
Non, même pas parce que j'ai jamais trippé sur ce joueur-là, mais que je me sens que c'est vrai que je pense pas qu'il va rester à Calgary non plus trop longtemps cette saison.
Ouais, ça va être au collègue Darren Ferris de pouvoir confirmer ou non, là, mais
ouais, c'est ça.
Je pense qu'en termes de cadrer la situation avec les Flames, je pense que c'est assez évident de regarder ce club-là. Tout le monde est en santé, puis c'est quand même un des pires clubs de la Ligue nationale. Donc, à prendre une situation et à prendre une décision, parce que nouvel amphithéâtre qui arrive à Calgary, ça doit commencer à bouger dès le début.
Faut que tu changes quelque chose, ça, c'est sûr.
Bon
après-midi à tous.
Bon après-midi. Mais là, vous êtes rentré. J'ai même pas besoin de parler de Kadri. Il rentre déjà dans le sujet. Ça n'a pas de sens. Mettons qu'on parle d'accueillir un joueur d'impact qui pourrait s'appeler Kadri, mais peut s'appeler quelqu'un d'autre. Tu sais, Marco, tu nous parlais de Braden Schenn. Il y a ces joueurs-là qui circulent, notamment. Lequel de ces trois espoirs seriez-vous prêt à sacrifier dans l'organisation pour faire l'acquisition d'un tel joueur? Zarofsky, Michael Hage ou David Reinbacher? Karel, on va commencer par toi.
Moi, c'est un no-brainer là, quand on le dit comme ça. Puis, jugez-moi pas, mais moi, en Reinbacher, je suis correct avec ce que j'ai vu, puis ça me dérangerait pas de m'en débarrasser en ce moment. Tandis que les deux autres, je trouve qu'il y a un upside un peu plus grand. Puis, à mon avis, dans les rôles qu'on va avoir de besoin dans un futur proche, avec ce qu'on a signé, avec ce qu'on a, avec certains joueurs qui vont être là pendant des années avec le CH, je sais pas si notre fameux défenseur droitier qu'on avait tant de hope, d'espoir, là, mettons, serait le gars que j'aimerais garder quand je compare à Age ou j'ai de la misère à dire ce nom-là.
Zarofsky.
Merci beaucoup.
Fait plaisir.
Parce que, honnêtement, ça n'a même pas rapport avec le nombre de blessures, ces choses-là. Il n'y a pas eu le meilleur temps, peut-être, pour nous démontrer ce qu'on voulait, Reinbacher, mais c'est, à mon humble avis, je trouve tellement qu'on... Ça, je l'ai dit tantôt au téléphone avec FX, mais je trouve tellement qu'on donne un niveau de plus à n'importe quel droitier, défenseur, pour absolument rien. Puis ça vient me chercher à chaque fois que j'en parle. Tu sais, fait que moi, ce serait mon joueur que je me débarrasserais demain, s'il faut.
Je sens que Marco est vraiment pas d'accord avec ça. Là.
Vas-y, Marco.
Moi, je suis d'accord avec Karel, mais je sais qu'FX, il l'est pas, puis je pense pas que Marco non plus.
Ouais, je pense que à cause de la valeur attribuée à la position dans la Ligue, il y a une raison pourquoi des joueurs comme ça sont repêchés très haut et rarement échangés. C'est une denrée rare. Et même s'il n'a pas joué à la hauteur nécessairement, si Logan Mailloux, qui en ce moment a une carte négative avec la Ligue nationale, dans la Ligue nationale, est capable d'aller chercher un Zachary Bolduc avec 7 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, il y a une certaine valeur attribuée à cette position-là, un peu comme les centres. Puis écoutez, mesdames et messieurs, là, quand vous allez commencer à avoir les prix pour les centres sur le marché des échanges cette année, il y a certaines mâchoires qui vont toucher la terre. Ça n'a aucun sens. Les demandes sur le marché des échanges pour des centres et des défenseurs droitiers en ce moment, c'est hallucinant. C'est la seule et unique raison que Buffalo ait pu accepter une transaction avec Kesselring comme étant la pièce maîtresse dans un échange de J.J. Peterka. C'est à cause du fait que la position est tellement rare et difficile à être capable de remplir. Et d'ailleurs, et ce qui rend la position encore plus difficile, c'est que durant les 5 dernières années, il y a eu beaucoup moins de défenseurs droitiers de premier plan repêchés en premier tour versus les années antérieures. On regarde 2015 à 2020, 2010 à 2015. Il y a quelque chose qui s'est passé les 5 dernières années, que ce soit la COVID, que ce soit juste une coïncidence. Mais si tu regardes en ce moment les meilleurs marqueurs du côté droit ou les meilleurs défenseurs du côté droit, la grande majorité sont au-delà de 30 ans. Ce qui n'a jamais vraiment été le cas il y a 5 ans. C'était plutôt une cuvée plus jeune.
Donc,
avec ceci dit, je sais que ça va pas faire populaire parce que c'est comme si j'enlève le joyau du Canadien de Montréal. Mais pour moi, c'est Jarovski. Je m'excuse. Si tu as à comparer un ailier top 6, un centre top 6 et un défenseur droitier top 4, valeur organisationnelle, Jarovski pour moi. Pourquoi? Parce que c'est bien beau tous les points que Jarovski il fait, mais il fait dans la conférence de l'Est de la KHL. Il le fait dans un contexte où ce qui se fait donner beaucoup plus de minutes. On a vu la même genre de choses avec Artamanov, qui est un espoir des Hurricanes de la Caroline, qui lui aussi, avec le Torpedo l'année passée ou il y a 2 ans, était à 1 point par match. Qu'est-ce qu'il fait cette année? Il joue dans la DHL. Donc, pour moi, de jouer dans un club de l'association Est de la KHL et de faire autant de points ne m'indique pas une sûreté de jouer dans la Ligue nationale. Et donc, pour moi, en regardant l'organigramme du Canadien, en ayant déjà 3 ailiers avec qui tu t'es enligné à long terme, et tu as Demidov qui s'en vient à signer une prolongation de contrat au plus vite le 1er juillet, est-ce que tu as vraiment besoin de load up avec des alliés? Tu peux toujours tasser un centre à l'aile, mais tu peux pas faire l'inverse. Donc, pour moi, ça, c'est Jarovski parce que avec les performances en KHL, tu pourrais te permettre. Maintenant, si c'est moi, j'échange aucun des trois, mais si j'avais à choisir un.
T'as pas le choix. Non, mais à un moment donné, Carrel et Marco, là, j'échange aucun des trois. À un moment donné, il va falloir qu'il y en ait qui partent aussi. Là.
Non, mais tu sais, dans ton point, là. Marco, tu viens de créer un peu plus mon argument d'un sens où tu le flippes puis tu sais que tu vas obtenir de quoi d'extrêmement bon en te débarrassant d'un droitier, défenseur, qui va te donner, comme tu viens de dire, qu'il y a plus de valeur, qu'il y a plus de ci, de ça. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher quelque chose qui a plus d'impact qu'un gars, justement, comme Jarovski, qui a rien prouvé puis qui joue pas? Tu sais, comme moi, je le voyais plus dans la catégorie qu'est-ce qu'on pourrait avoir contre cette espèce de situation-là. Ouais. Il faut se débarrasser de quelque chose qui est décent, si on va avoir de quoi être décent.
Mon seul problème, c'est premièrement, juste en contexte de valeur, t'échanges. Premièrement, Kent Hughes n'est pas le genre de DG à vendre au plus bas de la valeur d'un joueur. C'est un sell high, buy low. Fais pas l'inverse. Donc, pour moi, déjà là, échanger Ryan Backer maintenant serait une erreur parce que la vérité, c'est si Ryan Backer est capable de finir la saison en santé et jouer bien.
OK.
Il n'y en a pas beaucoup de disponibles comme lui qui vont être capables de rentrer dans un organigramme, qui vont être capables de jouer maintenant. Mais si tu l'échanges là, tu l'échanges au plus bas de sa valeur. Et donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement là. Tandis que Jarovski, pour moi, il y a beaucoup de positifs. Oui, il y a la chimie directe avec Demidov, ami d'enfance, c'est ça. Mais encore une fois, si on se base sur la valeur organisationnelle, le Canadien peut en repêcher un autre dans un repêchage à venir, peuvent le signer sur un marché d'échange. Les ailiers de deuxième et troisième trio, c'est la chose la plus facile à trouver sur le marché. Et donc, pour moi, c'est si la valeur de Jarovski est à un apogée à cause qu'un DG qui est en amour avec ses statistiques, aussi bien en prendre avantage.
On va prendre une très courte pause, puis au retour, on a une rafale de questions pour vous autres, notamment autour du Trophée Calder, mais aussi vos bulletins. Là. Qui mettez-vous comme le meilleur attaquant du Canadien? Qui mettez-vous comme étant le meilleur défenseur du Canadien après un mois d'activité? On continue le débat avec nos deux mangeux de pas, Carrel Aymard et Marco D'Amico.
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de Paul.
Encore et toujours avec Marco D'Amico, Coco et Carrel Aymard.
Je m'en viens de ça.
Tu l'avais jamais entendu, hein, celle-là?
Non, c'est moi qui l'ai. J'étais là la première fois qu'on l'a fait.
Ouais. je me rappelle.
Après ça, il a essayé de jouer la comédie en faisant semblant qu'il aimait pas ça. Puis tout.
Mais il adore ça.
Il adore ça. Hein, Coco?
C'était quelque chose aussi pour regarder dans sa vie personnelle, pas nécessairement sur les networks de ce monde.
Non, il y a Karel, s'il y a quelque chose que vous pouvez être sûr, c'est que si vous n'aimez pas quelque chose en ondes, je le ferai pas. Soyez-en assurés. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais je vous le redis. OK, les amis. Qui sont vos trois étoiles dans l'ordre du mois d'octobre chez le Canadien? On va commencer avec Coco.
Moi, je commence avec Cole Caulfield à 100%. C'est pour moi, si on se base sur les 11 premiers matchs de la saison, probablement, je te dirais, dans le top 3 des joueurs les plus dispendieux au succès de leur du club. Donc, pour moi, c'est lui numéro 1. Je mettrais certainement Mike Matheson deuxième. Et je pense que Jakob Dobesch, le club est 8-3, Jakob Dobesch a 6 des 8 victoires, donc Jakob Dobesch se doit d'être troisième.
C'est bon.
Karel?
Caulfield, Matheson, Dobesch.
Ouais.
Caulfield, Matheson. Puis, tu sais, honnêtement, je pense pas qu'on pouvait aller tellement différent dans Caulfield et compagnie. C'est sûr qu'il était dans mon top 3 aussi. Tu vois, moi, j'ai mis un peu un... J'en ai deux différents de toi. Fait que finalement, je suis allée avec Demidov en partant, juste pour le mois d'octobre aussi, parce que j'ai comme aimé son impact, pas par rapport à ce qu'on regarde, peut-être fiche de points seulement, ou peu importe ce qu'il y en a. Je pense que Cole Caulfield a été la menace la plus... Je suis d'accord avec toi là-dessus, puis c'est pour ça que moi, il est deuxième. Mais je pense qu'en termes de création de jeu, en termes d'ouverture, de ligne, d'espace, de donner vraiment un second effort sur ton deuxième trio ou même la deuxième vague avant, puis maintenant, tout le monde est à la bonne place sur l'avantage numérique. Demidov est venu me chercher en première étoile. Fait que Demidov, Caulfield, puis j'ai essayé de... Je voulais pas aller dans tout de suite, mais dans des zones un peu qui sont stables. Fait que j'ai décidé d'y aller avec Carrier pour le côté du défenseur en ce moment, dans le mois d'octobre, encore une fois, parce que puis j'aurais pu le faire du début de l'année. C'est un gars qui passe sous le radar plus souvent qu'autrement. Puis j'ai comme une tendance à aussi analyser un peu plus ces joueurs-là. Qu'est-ce que eux amènent à le joueur flashy qui est avec eux ou bien qui fait partie de l'alignement en tant que tel. Puis je trouve que Carrier, depuis son début, puis même statistiques avancées, il est comme dans le top de tout ce qui est passe bloquée, entrée de zone, vraiment, que ce soit entrée de zone stoppée ou même forcée à se dégager de la rondelle pour les autres équipes. Fait que, tu sais, dans mon avis, moi, c'était mes trois gars.
Mais là, Carrier.
Le club que j'y allais. Ouais, Demidov, Caulfield, Carrier.
Je suis pas en désaccord avec Carrier comme troisième étoile, mais. M'a envoyé une petite balle courbe là, dans deux instants parce qu'elle fait que je vais te parler avant. Là.
Non, mais attendez, là. Vous êtes en train de me dire que dans vos trois étoiles du premier mois.
Il faut le faire sur l'appel, puis après ça, il nous rentre dedans.
Non, mais attendez, là. Attendez. Attendez, là. Attendez.
Mais moi, je vais te caller out. On va s'obstiner pour vrai, Fix.
Vous êtes en train de me dire. Puis là, je comprends que ce sont des coups de cœur. C'est les trois étoiles, vos trois étoiles.
Ouais.
Mais vous êtes en train de me dire que Nick Suzuki, qui est quatrième meilleur pointeur de la Ligue nationale, qui a un très bon début de saison, n'est pas dans vos trois étoiles du mois d'octobre.
Ouais.
Ouais. L'autre, il fait juste des ouais. Mais il est proche. Parce que.
Et
ça, je te l'ai expliqué même au. Exact. Je te l'explique au téléphone, FX. Si on fait peut-être même. On revient au début de la saison.
Il n'y a pas de preuve, là, quand on s'est parlé au téléphone avant. Là.
C'est vrai. Bon point. Bon point. Fait que je te l'ai pas dit, mais moi, j'avancerais à dire qu'il était. S'il n'est pas troisième et 0.5, il est 4. Oui, il est dans la part de tout ce qui se passe offensivement, même si l'avantage numérique est sur le 55, sur le premier trio. C'est vrai qu'il est là, mais juste pour octobre, on dirait que j'avais comme deux autres joueurs en avant de lui. Du début de la saison, on nous en a donné un peu plus ou moins. Puis peut-être que je me fie un peu à l'année dernière aussi. On dirait que son apport est exceptionnel aussi. Là. C'est juste qu'on a eu des joueurs qui ont élevé leur jeu d'un cran, ce qui fait en sorte qu'il ressorte un peu plus que Suzuki.
Puis je vais te laisser y aller, Marco, mais ça veut donc dire que les performances de Nick Suzuki sont devenues un acquis. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas surpris parce qu'on s'en attend. Alors, ça fait pas partie de vos trois étoiles parce que vous savez à quoi vous attendre de Nick Suzuki. Je te laisse y aller, Marco.
Oui et non. Je pense que tu parles du début de la saison. Moi, je pense pas que Nick Suzuki a eu un très fort premier 3 ou 4 matchs à 5 contre 5. Je crois que c'est venu avec plus de facilité après de son temps. Et c'est, je pense que c'est maintenant où est-ce qu'on commence à voir vraiment une domination dans tous les sens, en désavantage, en avantage, 5 contre 5. Mais on peut pas me convaincre que le Nick Suzuki qu'on voit en ce moment jouer de la même façon les premiers 3 ou 4 matchs de la saison, c'est statistiquement, ça se démontre que c'est pas le cas. On a vu vraiment une hausse de son cas, puis c'est une hausse prononcée, puis on se souvient de qu'est-ce qui est plus récent dans nos évaluations, oui. Mais en termes de notes, c'est Caulfield qui fait fonctionner ce trio-là. J'ai hâte de pouvoir faire l'étude après une vingtaine de matchs pour voir l'apport de points quand Suzuki et Caulfield sont pas ensemble, parce que c'est vraiment là où est-ce que tu vas prendre la dépendance de ces deux-là en termes de points.
On a hâte aussi que tu la fasses, cette analyse-là, Marco. Mais là, vous autres, là. Marco, tu mets Matt Tyson dans tes 3 étoiles du mois. Et Karel, tu mets Carrier dans tes 3 étoiles du mois. Mais quand on vous demande de classer les meilleurs défenseurs dans le mois chez les Canadiens, vous mettez chacun un défenseur avant Matheson et avant Carrier. Là, Karel, explique-moi comment tu vois ça. Là. Comment ça se fait que Lane Hudson est un meilleur défenseur, selon toi, qu'Alex Carrier dans le mois, mais qu'Alex Carrier est plus utile à son équipe?
Je pense que la question avait dans le mois versus depuis le début de la saison ou peu importe ce qui était. Fait que le point de différence, c'est un peu dans la constance du qui t'en amène le plus à travers cette période-là, qui n'est pas nécessairement plus grande que juste ce qui s'est passé dans le dernier mois. Anyway, c'est ça pour dire que j'ai de la misère à pas te dire qu'à travers mon évaluation de Tune l'année dernière, cette année ou peu importe ce qu'il y en est, qui n'est pas en avant de ces deux gars-là. Par son apport probablement offensif et par aussi ce qu'il m'a prouvé à date depuis le début de la saison de comment il peut être efficace sans la rondelle ou à soutirer la rondelle des joueurs, peu importe comment il fait. C'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire avec son bâton. On dit ça en anglais de outsmarter, donc vraiment de jouer avec je vais te guider vers quelque chose puis je te soutire la rondelle. Je le trouve encore plus efficace qu'il l'a été l'année dernière. Puis j'ai mis Hudson, Carrier et Matheson. Fait que j'étais pas loin de ce que Marco disait en ayant Matheson dans le mix aussi, puis comment son impact a aidé de la façon qu'il joue, de la façon qu'il est utilisé. Je pense qu'on a 3 gars qui sont placés dans des bonnes chaises, dans des bons rôles, ce qui fait en sorte que quand tu les évalues, un à côté de l'autre, oui, il y a 1, 2, 3, qui t'en a donné dans les dernières semaines versus les autres, ça peut changer. Mais on est très bien positionné avec ces 3 gars-là sur le camp défensif avec Montréal.
Marco?
Le Canadien bénéficie de 3 défenseurs de première paire en ce moment. C'est un joyau d'avoir ça, c'est un luxe. C'est donc le il fait qu'on Goulet. Argumente ici, c'est ça, et il manque Goulet. Donc, tu sais, on argumente sur une situation où est-ce que la différence est tellement minime entre ces 3 défenseurs-là, ces 3 défenseurs élites. Et écoute, moi, je pourrais te vanter Noah Dobson. Moi, j'ai Noah Dobson comme étant le meilleur défenseur du Canadien de Montréal depuis le début de la saison parce que les détails dans son jeu sont tellement le fun à regarder, la façon qu'il se positionne, l'utilisation du bâton, l'effet qu'il a sur la game de Matheson qui permet à Matheson, selon moi, d'être un des 3 étoiles du CH. Je pense que c'est à cause de... C'est ça. C'est non seulement l'impact qu'il a sur sa paire et lui individuellement, mais sur l'organigramme au complet. Il a quasiment, lui seul, sur le temps de jeu qu'il a, totalement transformé le jeu de transition du CH à 5 contre 5. Qu'est-ce qui était vraiment pas une force cette équipe-là jusqu'au plus récent l'année passée est maintenant vu comme étant leur marque de force pour la première paire et qui leur permet de les jumeler avec le premier trio et de voir le quintuplet de ces 5 joueurs-là dominer à 5 contre 5. Donc pour moi, c'est vraiment l'impact, les détails et la façon qu'il est capable d'aider d'autres joueurs à s'élever parce que les jeux que Dobson fait, on commence à les voir de plus en plus là, depuis le début de la saison, les jeux en zone offensive, la passe à Suzuki, la passe à Slavkovski qui a mené à son but, la passe sur le but de Caulfield. Il y a beaucoup de jeux élites qu'on est en train de voir dans les petits détails de Noah Dobson. Et ça, c'est un joueur qui, je répète, a commencé la saison blessé aussi. Donc, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que les 11 prochains matchs vont avoir de l'air parce que le fait qu'on ait la capacité d'argumenter entre ces 3 défenseurs-là est un luxe. Selon moi, quand Goulet revient et que tout le monde est en santé, si les 4 se mettent à rouler, on parle vraiment d'un quatuor qui va être parmi un des 5 meilleurs de la Ligue nationale.
Merci beaucoup, nos deux mangeurs de POC. Toujours un plaisir de jaser avec vous autres. Et on se reprend la semaine prochaine également. Bon match samedi. Marco, on te reparle demain, toi, là, je crois. Non?
Ben, j'espère. C'est écrit ici.
OK, bye. Là, c'est assez. Là. OK, bye. Bye.
Bye, là.